Bonjour Julien Odoul.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'est exprimé hier devant les parlementaires européens en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Les présidents des groupes parlementaires ont pu également s'adresser à lui. Pour votre famille politique, c'est le président par intérim du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui a pris la parole. Un réquisitoire implacable contre la gouvernance d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça n'est pas vous qui faites de cette présidence une caisse de résonance pour l'élection présidentielle tout en le dénonçant ?
Le discours de Jordan Bardella était extrêmement lucide sur la politique d'Emmanuel Macron, sur sa vision de l'Europe et notamment sur son projet de liquidation de notre pays. Et ça a été exprimé par une réponse qui m'a beaucoup choqué du président de la République quand il dit « le drapeau européen a flotté à la place de rien sous l'Arc de Triomphe ». Il en était fier. À la place de rien, c'est-à-dire au-dessus de la tombe du soldat inconnu, c'est-à-dire autour des gloires de la Révolution et de l'Empire, c'est-à-dire à la place de l'âme de la nation, à la place de la France combattante. Tout ça illustre finalement le mépris d'Emmanuel Macron pour notre identité nationale, pour nos libertés, pour finalement la place de la France dans l'Europe et dans le monde. Pour Emmanuel Macron, et d'ailleurs toute sa politique l'illustre, la France a disparu. Il faut passer à autre chose, il faut passer à un modèle fédéraliste, il faut passer à un grand ensemble. Un espace économique livré aux quatre vents, qui est totalement sous la coupe de l'OTAN, des États-Unis, qui est une proie pour la Chine. Nous considérons que la nation, c'est l'avenir, parce que la nation est le seul instrument de protection pour la France et les Français.
Vous ne vous retrouvez dans aucune des ambitions affichées par Emmanuel Macron pour cette présidence française? Réformer Schengen, réguler les géants d'Internet, mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne?
On entend ces promesses, ces incantations depuis des années. Réformer Schengen, même Nicolas Sarkozy en parlait. La réalité, c'est que jamais la politique migratoire a été régulée. Jamais les frontières européennes ont été des murs.
Mais il y a eu des vagues de migration, ce qu'on a appelé la grande crise des migrants il y a quelques années, notamment, qui peut-être ont provoquer une espèce de prise de conscience, une nécessité de réformer Schengen.
Oui, mais le projet de l'Union européenne, quel est-il ? C'est de faire venir toujours plus de migrants. Le projet de l'Union européenne, ce n'est pas protéger l'identité des peuples européens, c'est pas faire en sorte que l'Europe reste elle-même et que les peuples puissent disposer de leur droit à exister et à subsister. Le projet de l'Union européenne, c'est faire venir toujours plus de migrants pour faire baisser les salaires, pour remplacer la main-d'œuvre européenne. C'est un projet de remplacement, à la fois remplacement économique, remplacement culturel. C'est tout l'inverse de nous, notre projet pour la priorité nationale et la préservation de notre industrie, de notre modèle social. Tout ça, ça peut être préservé au sein de la nation et non pas au sein d'un grand ensemble qui aujourd'hui est une menace à la fois pour l'avenir de notre pays et pour la pérennité de notre peuple.
Marine Le Pen dit explicitement que l'Union européenne affaiblit la France. Est-ce que nous serions mieux en dehors de l'Union européenne, comme l'a fait par exemple la Grande-Bretagne ?
Ce qui est certain, c'est que l'Union européenne n'est pas une puissance. La France est une puissance, c'est la sixième puissance économique du monde, c'est la deuxième zone maritime du monde, c'est la deuxième langue la plus apprise du monde, nous avons des atouts formidables, nous sommes une puissance mondiale. Or, nous nous sommes résignés à être tout petits, à être un nain au sein de l'Union européenne. Je pense que l'Union européenne a plus besoin de la France que la France a besoin de l'Union européenne. Alors oui, il faut une Europe des nations. Oui, il faut une Europe des coopérations. Oui, il faut une Europe des partenariats économiques, stratégiques, de recherche, éducatifs. C'est très intéressant. Mais il ne faut pas une Europe puissance qui finalement corsette nos atouts et nos fondamentaux. C'est ça le problème de l'Union européenne. C'est d'avoir voulu politiser, c'est d'avoir voulu imposer. Et finalement, le résultat de ces politiques, c'est deux vagues d'austérité et une vague aussi d'immigration qui aujourd'hui est une vraie menace pour le continent européen.
Dans la crise sanitaire, l'Union européenne n'a-t-elle pas été utile, par exemple pour la centralisation des achats de vaccins ?
Alors on a bien vu que c'était un échec cuisant, que l'Europe n'avait pas pu nous protéger. Ce sont les États qui ont protégé les nations sur la crise sanitaire, sur la crise migratoire également.
Oui, si les États avaient acheté, les États européens, indépendamment tous leurs vaccins, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une concurrence malsaine entre États européens dans cette crise ?
Non, mais vous savez, ce qui était frappant, c'est que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, n'ont pas pu découvrir, sortir un vaccin. C'est-à-dire que les vaccins viennent d'ailleurs. Les vaccins viennent des États-Unis notamment, viennent de Chine, viennent de Russie. Nous aurions aimé que la France, sixième puissance économique du monde, qui est un grand pays de recherche, puisse avoir une politique...
Tout le monde le déplore, mais c'est un autre sujet.
C'est aussi un sujet important. C'est-à-dire que nous nous sommes résolus, malheureusement, à être une petite puissance, alors que fondamentalement, historiquement, nous sommes une grande puissance, un grand pays.
Depuis plusieurs semaines maintenant, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont à touche-touche dans les sondages avec entre 13 et 17% des intentions de vote, tandis qu'Emmanuel Macron est toujours en tête avec plus ou moins 25%. Je précise que dans les derniers sondages, Marine Le Pen est devant, devant y compris Valérie Pécresse, avec 17% des intentions de vote. Mais finalement, donc, tout ça est très proche. Est-ce que ce scénario peut se prolonger longtemps, encore plusieurs semaines, selon vous? Ou est-ce qu'à un moment donné, les choses vont se décanter rapidement? Et comment, peut-être?
La campagne présidentielle va enfin s'ouvrir, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire que la crise sanitaire finissant, la campagne présidentielle va pouvoir entrer dans le quotidien des Français, ce qui n'était pas le cas. Emmanuel Macron a tenté, par des mesures de diversion, il faut bien le dire, à retarder ce débat présidentiel. Il va avoir lieu. Il va avoir lieu sur les choix de civilisation.
Hier au Parlement européen.
Il a commencé, je dirais, hier au Parlement européen. Il va s'intensifier. Marine Le Pen est la seule qui peut empêcher Emmanuel Macron de refaire un mandat. Marine Le Pen est la seule qui peut gagner fondamentalement et qui peut assurer la victoire de nos idées. Et dans ce cadre-là, nous nous appelons évidemment au vote utile. Vote utile de tous ceux qui ne veulent plus de Macron, vote utile de tous les patriotes qui veulent plus de liberté, plus de sécurité, moins d'immigration. Et dans ce cadre-là, il faut appeler la responsabilité des uns et des autres pour se rassembler dès le premier tour.
Alors les nouvelles ne sont pas très bonnes ce matin pour Marine Le Pen. Le président de la délégation des députés du Rassemblement national au Parlement européen, Jérôme Rivière, annonce qu'il rejoint Éric Zemmour. Vous dites que Marine Le Pen est la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Eh bien lui, il est convaincu du contraire. Il est certain qu'elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle, ce que répète sans cesse Éric Zemmour. C'est tout de même un coup dur, non, pour votre candidate?
Non, c'est pas un coup dur. Vous savez, c'est les vicissitudes d'une campagne avec des aigris qui peuvent partir parce qu'ils n'ont pas eu les postes qu'ils souhaitaient.
Je vous dis
la vérité. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger sur les motivations de ce monsieur qui file vers un navire en perdition. C'est-à-dire qu'il quitte une candidate...
Au moins, on ne peut pas lui reprocher d'aller à la soupe.
Non, mais je veux dire, il quitte une candidate qui est à touche-touche avec Emmanuel Macron, qui peut gagner, qui est à 46% au second tour dans les sondages, donc qui est dans la marge d'erreur. Il quitte une candidate qui est aujourd'hui en ascension, c'est-à-dire qui a une capacité de rassemblement bien supérieure à celle d'Éric Zemmour, qui baisse dans les sondages et qui, lui, ne peut pas gagner. Donc c'est vrai, comme disait Winston Churchill, c'est un rat qui file vers un navire en perdition. Donc on a du mal à comprendre la motivation, si ce n'est peut-être de nous faire perdre. Parce qu'on voit que certains, sous couvert de discours...
Juste l'expression d'une rancœur personnelle?
Je pense que oui, malheureusement dans la vie politique, il y a des rancœurs personnelles, il y a des individus qui placent leur considération, leur bien-être, leur carrière avant l'intérêt national. Nous, c'est évidemment l'intérêt national et le sauvetage du peuple français qui nous compte.
Jérôme Rivière annonce qu'il n'est que le premier et que d'autres suivront rapidement sa voie. Est-ce que chez vous, au Rassemblement national, on redoute tout de même un peu une forme d'hémorragie?
Il n'y a aucune hémorragie.
Elle n'est pas encore arrivée, mais lui l'annonce.
Au contraire, vous savez, une campagne présidentielle, c'est une bataille. C'est une bataille où il y a des soldats héroïques et c'est une bataille où quelquefois il y a des traîtres. Ça arrive. Et c'est à ce moment-là, notamment, qu'on peut se compter et voir sur qui on peut compter. Mais Marine Le Pen, elle compte d'abord sur les Français. Les Français qui la rejoignent, les Français qui lui témoignent leur soutien sur le terrain. Marine Le Pen est la seule qui fait véritablement une campagne de terrain, de propositions, de solutions sur tous les sujets, notamment sur un sujet central qui est la défense du pouvoir d'achat, avec la baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5, avec l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Tout ça, c'est des propositions concrètes et c'est ça qu'attendent les Français.
Merci Julien Odoul. Bonne journée.
Merci.